heureux d'être parmi vous. C'est une joie, en même temps un honneur d'être parmi vous. Et les anciens m'ont demandé d'adresser une question ce matin qui est importante à ce point-ci de la vie de l'Église, la Bible parle, la nomination des anciens. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Comment la Bible nous informe? Comment la Bible nous enseigne sur cette grosse question-là qui est une étape importante de la vie d'une église locale? Alors ce matin, ça va être beaucoup plus une étude biblique qu'une prédication. Alors ceux qui font la différence entre les deux, on va naviguer avec certains textes, on va regarder ce que les textes de la Bible disent concernant... Qu'est-ce qu'on doit suivre comme principe quand une église est devant l'étape de nommer des anciens? Comment est-ce qu'on doit procéder? L'église est une organisation divine. Et comme toute organisation divine, on retrouve dans la parole aussi l'ordre que Dieu a donné. Donc, avant de commencer, j'aimerais lire trois textes qui vont être le centre de notre discussion ce matin. Et après ça, on va prendre juste un instant pour demander la grâce de Dieu. D'abord, 1 Timothée, vous avez les textes qui sont au tableau. 1 Timothée, chapitre 3. Alors, quand j'ai commencé ma vie pastorale, on disait « ouvrez votre Bible ». Aujourd'hui, on dit « sortez vos téléphones ». Mais allez pas sur vos courriels. 1 Timothée, chapitre 3, et le verset 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un désire être évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que l'évêque soit irréprochable, irrépréhensible, mari d'une seule femme, vigilant, modéré, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non sujet au vin, non batteur, non convoiteux d'un gain déshonnête, mais doux, non querelleur, non avare, conduisant honnêtement sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute pureté de mœurs. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner l'Église de Dieu? Qu'il ne soit point nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du calomniateur. Il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors et qu'il ne tombe point dans les fautes qui puisse lui être reproché, ni dans le piège du diable. Tournez maintenant dans le livre suivant, dans l'épître de Tite. Tite au chapitre 1 et le verset 5. Et je vais lire les versets 5 à 9. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en bon ordre les choses qui restent à régler et que tu établisses des anciens de ville en ville, suivant ce que je t'ai ordonné, ne choisissant aucun homme qui ne soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, et dont les enfants soient fidèles, et qui ne soit pas accusé de dissolution ni désobéissant. Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible, comme étant dispensateur dans la maison de Dieu, non adonné à son sens, non colère, non sujet au vin, non batteur, non convoiteux d'un gain déshonnête, mais hospitalier, aimant les gens de bien, sages, justes, saints, continents, retenant ferme la parole de la vérité comme elle a été enseignée, afin qu'ils soient capables tant d'exhorter par la saine doctrine que de convaincre les contredisants. Et le dernier texte, dans 1 Pierre chapitre 5, les versets 1 à 4. Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi, qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée, je leur dis, paissez le troupeau de Christ qui vous est commis en prenant garde de lui, en prenant garde sur lui, non point par contrainte, mais volontairement, non point pour un gain déshonnête, mais par un principe d'affection, et non point comme domination sur les héritages du Seigneur, mais en telle manière que vous soyez pour tous un modèle du troupeau. Et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. Je voudrais vous inviter à prier, si vous voulez. On va courber nos têtes. Père éternel, on veut te rendre grâce que dans la parole, non seulement tu nous as donné la voie du salut, mais tu nous as aussi donné tout ce qu'il faut pour grandir en tant qu'Église locale et être bien équilibré dans notre gouvernance d'Église. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces textes. Et je veux te prier ce matin que ta parole puisse faire son chemin dans chacun de nos cœurs. Aide-moi à être un bon transmetteur de ta parole. Et Seigneur, je te prie que ce temps qu'on va passer ensemble puisse contribuer à l'édification et la croissance de l'Église. Je te demande tout ça, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen. Quand on parle de gouvernance d'Église, quand on parle de direction dans l'Église locale, ça fait naître toutes sortes de craintes. Tous et chacun, on a nos histoires à raconter depuis le début de notre vie chrétienne, où on a des bons et des moins bons souvenirs quand on parle de gouvernance, quand on parle de direction d'Église. Heureusement, pour ma part, j'ai plus de bons souvenirs que d'autres. Maintenant, quand vient le temps d'établir ce modèle de gouvernance qui vient de la parole, les anciens, il faut revenir à ce que la parole dit. Et d'abord, certains principes qui sont importants. D'abord, quand Dieu a donné l'Église, l'Église, c'est d'abord l'Église universelle. C'est d'abord une Église qui traverse tous les temps, qui traverse tous les âges, qui est le rassemblement de tous les enfants de Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant. Elle dépasse les barrières du temps, les barrières des nationalités, les barrières du sexe, et l'Église, elle est large. La parole dit dans Éphésiens 1, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Notre chef, premièrement, c'est Jésus. Le chef de l'Église universelle, c'est Jésus. Dans Galates, c'est écrit, il n'y a plus ni grec, ni juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc postérité d'Abraham, héritier de sa promesse. Donc, on recule loin, là. On recule loin. L'Église universelle est une grande Église. L'Église universelle est une grande Église, dont le souverain berger, c'est Jésus et Jésus seul. Mais compte tenu que Jésus connaissait aussi notre nature humaine, c'est difficile d'aller adorer le dimanche matin avec l'Église universelle. Il y a un certain problème d'affiliation, il y a un certain problème de communion fraternelle, donc Dieu, dans sa sagesse, a institué l'Église locale. Alors, même si on fait partie d'une plus petite ou d'une plus grande Église, l'Église locale, elle est là, on en fait partie, c'est une vision beaucoup plus pratique, beaucoup plus terre-à-terre. De l'Église. Et on en a un exemple lorsque Paul a écrit sa lettre à Philémon où il parle de l'Église qui est dans une maison. Donc, il y a l'Église universelle, il y a une Église qui est plus locale et c'est à cette Église-là, il a donné une mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les, multipliez-vous et que l'Église grandisse. Baptisez-les au nom du Seigneur Jésus. Donc, on a une mission. Et non seulement Dieu a institué l'Église universelle, institué l'Église locale, il lui a donné une mission, mais c'est intéressant, il lui a aussi donné une structure. Autrement dit, on n'est pas laissé à nous-mêmes dans un groupe qui se rassemble où le chaos peut régner, où chacun fait comme il lui plaît, chacun fait comme il veut, et finalement on se ramasse avec plein de confusion, plein de problèmes. Dieu a donné un certain ordre à l'Église. Et voici l'ordre qu'on retrouve et qu'on va regarder plus en détail. D'abord, Jésus-Christ est la tête et les croyants reviennent à Jésus-Christ. Notre souverain berger, c'est Jésus. Donc, certains pourraient dire, « Bien, moi, mon pasteur, c'est Jésus. Pourquoi j'irai ailleurs? Pourquoi j'irai dans... Moi, j'ai un pasteur, c'est Jésus, puis c'est tout. Et puis, mon Église, c'est l'Église universelle, donc je peux... le dimanche, je peux naviguer d'une église à l'autre. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Des chrétiens Robinson Crusoe, ça n'existe pas dans la Bible. Alors, il semble que Dieu a voulu qu'on ait une maison. Dieu a voulu qu'on ait un endroit. Et pour ça, il a donné un ordre. Il a donné une structure. D'abord, des anciens, établir des anciens. établir des diacres pour aider les anciens. Et tout ça pour servir le peuple de Dieu. Donc, on revient au peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu, Dieu a voulu être, nous montrer qu'il est ordonné. Donc, il a donné une structure à l'Église locale de telle façon à ce que les chrétiens ne soient pas dissipés, que les chrétiens n'aillent pas tout azimut et en voulant faire ce qu'on veut. Donc, on réalise que l'Église a une structure. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui préfèrent ne pas avoir de structure. Mais l'Église a une structure. D'abord, les anciens, pour en donner la direction, les diacres, pour en exercer le service, pour décharger les anciens au bénéfice des membres de l'Église qui sont appelés à choisir ces hommes-là qui vont donner la direction sur eux. Et il semble que c'est l'ordre qu'on retrouve dans la parole. Donc, l'Église, quelque part, dans le cours de sa course, est appelée à identifier des anciens. Et vous allez voir, je vais des fois jouer un peu sur les mots. Je ne vais pas utiliser nécessairement le mot « voter ». On va faire attention quand on parle du mot « nommer », mais on va parler d'identifier des anciens et, dans d'autres temps, identifier des diacres. Donc, cette nomination-là se fait premièrement sous la direction de l'Esprit-Saint. Parce que c'est une structure divine. Parce que l'Église est une structure divine. La façon dont on doit le faire, ce n'est pas par de la petite politique, ce n'est pas par des choix « je t'aime » ou « je ne t'aime pas », ce n'est pas ça. C'est premièrement sous la direction du Saint-Esprit qu'on contribue à établir la structure de l'Église locale qui est une institution divine. On a beau la critiquer, on a beau lui trouver toutes sortes de défauts, on a beau trouver plein de pécheurs là-dedans, on a beau l'affubler de toutes sortes de noms, ça n'en reste une invention de Dieu. Et quand Jésus-Christ va revenir, il va revenir chercher son Église. Et entre-temps, il veut qu'on grandisse en la purifiant et il veut qu'on devienne de plus en plus saint. Donc, premièrement, sous la direction du Saint-Esprit. Deuxièmement, selon les énoncés de la parole de Dieu, selon les énoncés prescrits par la parole de Dieu, ce qu'on va regarder ce matin, en fonction de la recommandation des anciens et par l'Assemblée qui confirme ou infirme la recommandation des anciens, parce que les anciens, bien qu'étant anciens, bien qu'étant au service de Dieu, ne sont pas parfaits non plus. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu est là. Donc, les anciens sont appelés à exercer un rôle de direction dans l'Église, un rôle qui est confié par un appel de Dieu, ce qu'on va regarder. Et cet appel-là est reconnu par les autres, premièrement par les anciens en place, et ensuite par les autres qui bénéficient et qui les regardent aller. Même chose pour les diacres. Même chose pour les diacres. Lorsque je suis arrivé à Montréal en 1993, j'ai accepté le pastorat dans une petite église, une toute petite église, qui venait de se diviser 50-50. La moitié de l'église a mis l'autre moitié sous discipline. Il faut le faire. Et alors, je suis rentré dans cette petite église-là. Il restait un ancien, un diacre. Dans les 6 premiers mois, malheureusement, on a dû mettre... après 3 mois, il a été découvert que... l'ancien vivait dans le péché, il a fallu le mettre sous discipline. Et 3 mois plus tard, on a découvert que c'était le diacre qui vivait aussi dans le péché. Et les deux n'ont pas voulu se repentir, les deux n'ont pas voulu changer de voie, discipline. Bienvenue. Tout le monde pensait que j'allais retourner à Chibougamau en courant. Et alors là, les gens, ils ont dit, Gilles, tu ne peux pas rester tout seul comme ancien, il faut en nommer un autre. J'ai dit, j'ai rien contre ça, j'aimerais bien ça. Envoyez-vous un autre dans l'Église qui enseigne, qui fait de la pastorale, qui visite les gens, qui fait des disciples. Envoyez-vous un autre. Ils ont dit non. Ben j'ai dit, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on n'en nommera pas. Il n'y en a pas. On n'en crée pas. Oui, mais au moins un diacre. Au moins un diacre. Ben j'ai dit, voyez-vous quelqu'un dans l'Église qui sert, qui est au service, qui rend vraiment des services à multiples... Non, bien, voyez-vous, on n'en a pas non plus. On ne crée pas. On reconnaît. Et ça, c'est important. C'est une notion que je vais revenir avec souvent dans l'étude de ce matin. On ne crée pas un ancien. On ne crée pas un diacre. On nomme pas quelqu'un pour lui donner un poste. On reconnaît un appel de Dieu. On reconnaît quelqu'un qui est déjà au service. Et c'est les notions que la parole la parole de Dieu va nous donner. Donc, les anciens sont là, pas pour avoir une autorité en droite ligne avec Dieu, pas pour dominer sur le peuple, mais pour donner une direction au peuple de Dieu comme ayant un cœur de serviteur. Donc, la Bible confie aux anciens une responsabilité de direction sous la direction de l'Esprit-Saint et confie au diacre une responsabilité de serviteur. Donc, c'est important de bien comprendre ces notions-là pour qu'on puisse établir dans l'Église l'ordre et la structure que Dieu a choisie pour l'Église locale. Premièrement, l'analyse d'un terme, un ancien. Qu'est-ce que c'est un ancien? Un ancien, on a ce mot-là qui retourne à l'Ancien Testament. Ça vient du grec presbyteros, qui veut dire vieux, ancien, une position de seigneurité, une certaine position d'autorité. Ça indique l'idée de respect, de direction, de leadership. Déjà, dans le peuple juif, on nommait des anciens et ça a été institué par Moïse. Moïse, sous le conseil de son beau-père Jéthro, parce que Jéthro est venu le voir, puis il a dit, pauvre gars, tu vas faire un burn-out. Alors, nomme-toi des aides. Alors, Moïse a nommé 70 aides. Et par la suite, ce modèle-là est demeuré dans la vie de l'Ancien Testament. Et même quand on arrive dans le Nouveau Testament, on retrouve encore cet ordre-là dans Nombre. Mais dans les Nouveaux Testaments, on retrouve encore cet ordre-là qui existe. Donc, c'était une façon d'aider à cette gouvernance. Donc, le mot « ancien » réfère à quelqu'un qui a une certaine, attention, pas une certaine ancienneté. Et là, on pourrait se tromper, là, parce que nous, dans notre système syndical, l'ancienneté, mais une certaine autorité, une certaine notoriété, et on va voir qu'il n'est pas nécessairement jeune non plus. Donc, il y a une nuance à faire là-dedans. Donc, quand on regarde le Nouveau Testament, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous enseigne? Quatre choses que je vais regarder avec vous ce matin plus précisément. D'abord, leur nomination, leur nombre, leur fonction, et puis les qualifications. Et à la fin, j'aimerais juste vous entretenir un peu de ce que la Bible dit pas, qu'on pense qu'elle dit. Et on va revenir à la fin sur ces notions-là. D'abord, quand la Bible parle de nomination, alors après leur premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas sont revenus dans les églises qu'ils avaient fondées et ils ont établi la structure que Dieu leur a inspirée. Alors, dans Acte 14, c'est écrit, « Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié, jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Donc, le mot « firent nommer » vient de deux mots grecs qui veut dire « lever la main, dire OK ». Alors, c'est deux mots grecs, « che » et « eterno »,« teino », qui veut dire « main, lever, tendre ». Donc, on tend à réaliser qu'il y a eu un choix qui a été exprimé de la part de l'Assemblée. Et dans le monde d'Athènes, on a utilisé ce mot-là pour parler de « voter ». Mais par contre, il faut faire attention quand on parle de mot « voter ». Dans notre société, on vote pour un gouvernement. On vote pour une personne ou pour une autre. Puis souvent, on vote sur des apparences. On vote sur on l'aime ou on ne l'aime pas. Il parle bien ou il ne parle pas bien. Et le mot « voter » fait souvent référence à des critères qui sont biaisés. Ici, dans la parole, on va parler beaucoup plus de donner son accord à confirmer l'appel de quelqu'un pour le ministère d'ancien ou, dans d'autres cas, le ministère de diacre. Alors, il faut faire attention à devenir tellement démocratique de se laisser prendre par ce piège-là. Donc, les anciens, quelqu'un qui est ancien, c'est quelqu'un qui est premièrement appelé de Dieu. L'ancienat, on va voir le pastorat, on utilise moins le mot évêque, on va revenir tantôt, on vient d'un arrière-plan où on l'avait utilisé pour autre chose. C'est premièrement un appel de Dieu. Et ce que l'Église doit discerner lorsqu'on choisit des anciens, est-ce que cet homme-là est premièrement appelé de Dieu? Est-ce qu'on voit chez lui clairement que Dieu l'a appelé pour un ministère de berger? d'enseignant. Ensuite, c'est quelqu'un qui est remarqué et recommandé par les autres anciens. Les autres anciens, un de leurs ministères, c'est de se reproduire, se multiplier. Donc, les anciens en place ont la responsabilité de voir la prochaine génération et dans leur même génération, d'équiper l'Église de ceux que Dieu appelle. Et c'est toujours cette pensée-là qu'il faut garder en tête. Nous cherchons les hommes que Dieu a appelés à un ministère pastoral. Il y en a qu'on va le discerner très jeune dans leur vie. Il y en a qu'on va le discerner très tôt après leur conversion. Parce qu'ils vont prendre soin. Ils vont prendre soin des autres, naturellement. Un jeune va prendre soin des plus jeunes. Un jeune adulte va prendre soin des ados. Et cette notion-là de bergerie est la base de la démonstration de cet appel-là. Et finalement, il va être confirmé. Maintenant, on ne nomme pas seulement un ancien. On reconnaît un appel. Pardonnez-moi si vous l'entendez répéter, ce n'est pas parce que je m'en viens vieux seulement. Je veux que ça rentre. On ne nomme pas un ancien. On reconnaît l'appel de Dieu chez un homme à l'ancienat ou au pastorat ou à la charge d'évêque. On va voir, les mêmes mots sont tous là. Donc, il n'y a pas de... Et ça, c'est extrêmement important. L'Église, lorsque je suis arrivé dans l'Église ici à Montréal, l'Église voulait nommer un ancien. Quand, dans le fond, tout le monde réalisait qu'il n'en voyait pas. Mais je leur ai expliqué, voyez-vous pourquoi on a des problèmes dans l'Église parfois? Parce qu'on va donner une job d'ancien à quelqu'un, quand dans le fond, Dieu ne l'a jamais appelé être un ancien. Dieu ne l'a jamais appelé être un ancien. Une Église que j'ai connue, à un moment donné, ils ont eu des conflits, et puis il y avait deux pasteurs, et puis il y avait un conseil de quatre diacres, et puis la chicane a poigné, ça arrive des fois, la chicane a poigné, et puis les quatre diacres ont mis les deux anciens dehors, puis les quatre diacres se sont fait nommer anciens. C'est pas de la science-fiction, là. Et quelques temps après, un de mes amis était membre de cette église-là. Quelques temps après, il m'a envoyé une lettre. Dans le temps, les courriels n'existaient pas. Alors, il m'a envoyé une lettre, puis il m'a dit, Gilles, il dit, « Je suis tanné de me faire administrer. J'ai hâte de me faire paître. » Ça fait au moins 40 ans de ça, je m'en rappelle encore de cette lettre-là. C'était extrêmement significatif d'une mauvaise compréhension. On ne nomme pas des gens qui ne sont pas premièrement appelés de Dieu. Et on va voir comment on discerne ce genre d'appel-là. Et on va voir qu'est-ce que la Bible dit là-dessus. Leur nombre, la Bible ne dit pas de nombre, mais c'est intéressant, chaque fois qu'on parle des anciens, c'est toujours au pluriel. Donc, on recherche le pluriel. On recherche à ce qu'il y ait une pluralité d'anciens. Pourquoi? Parce que c'est plus sage lorsqu'il y en a. C'est plus sage d'avoir une pluralité d'anciens et de telle façon d'être plus équipé, plus équilibré dans la mesure des dons. Et à ce moment-là, l'Église est aussi mieux servie. Leur fonction. La Bible donne trois termes. Ancien, évêque, pasteur, et les trois sont équivalents. Et les trois sont utilisés interchangeables dans les Écritures. Le mot pasteur, plusieurs ont eu peur de celui-là. Dans certains milieux, on l'utilise moins que d'autres. Le mot pasteur, c'est un mot qui vient du grec, qui signifie berger, celui qui veille, celui qui conduit, celui qui nourrit, celui qui guide les brebis. Alors, curieusement, il est employé une seule fois pour décrire un chrétien qui a une responsabilité dans l'Église locale, dans Éphésiens 4, verset 11. Mais à chaque fois qu'il est utilisé, c'est toujours pour décrire quelqu'un qui fait de la bergerie. Il est employé 13 fois dans les quatre évangiles pour parler de Jésus comme étant le souverain berger, 2 fois dans les épîtres pour parler de Jésus comme étant le souverain pasteur, Hébreux et Pierre. Et le terme pasteur définit la description de tâche qui est donnée à l'ancien dans d'autres textes. Le mot est utilisé suffisamment pour qu'on puisse ne pas avoir peur de l'utiliser. Le terme « pasteur » s'adresse aux anciens qui ont un ministère très spécifique de bergerie. On voit que les anciens ont différents dons, les anciens, bien que ce soit un appel de Dieu, les anciens sont appelés à faire différentes choses, surtout quand il y a une multiplicité d'anciens dans l'Église locale, lorsqu'il y a une pluralité d'anciens. Alors, la notion de paître, l'apôtre Paul, dans Actes 20, s'adresse aux anciens d'Éphèse, qui les fait venir à Milet pour les rencontrer. Il les appelle évêques. Nous, on n'utilise pas trop ce terme-là. Puis il leur dit de paître le troupeau de Dieu. C'est intéressant. Dans le même texte, il appelle les anciens, il fait venir les anciens, il les appelle évêques, puis il leur dit « paissez le troupeau de Dieu ». Donc, pour un ancien, la notion de pasteur est réellement là. Le terme « évêque » est un terme qu'on utilise moins, « épiscopos », épi qui veut dire sûr, scopéo qui veut dire observer. On a utilisé le mot scopos pour bien d'autres mots, un télescope, un microscope. Alors, on utilise quand même ce mot-là. Alors, il dit au 1 Pierre 5, qu'on a lu tantôt, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu. » Un ancien est appelé à paître, à avoir une fonction de pasteur. Il y en a qui ont une fonction plus élaborée que d'autres, mais tous les anciens sont appelés à avoir une fonction de pasteur et de berger. Donc, c'est celui qui va pourvoir, c'est celui qui va prendre soin, c'est celui qui va entourer. Alors, dans cette notion-là d'évêque, il y a une fonction de surveillance. Quand on dit « regarder sur », ça veut dire que l'évêque est appelé à avoir une vision globale, prendre soin, protéger. Il est appelé à avoir les yeux sur le troupeau, de telle façon à voir est-ce qu'il y a des dangers. Et c'est la fonction d'un évêque, même dans le côté catholique, c'est la fonction de l'évêque, de veiller. Alors, on n'a pas à avoir peur du mot, maintenant on l'utilise moins. Alors, c'est une fonction de surveillance. Alors, à avoir la fonction de surveillance, il y a aussi une fonction d'enseignement et de direction. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et l'enseignement. Donc, c'est normal qu'on va trouver à travers un groupe d'anciens certains qui vont avoir une tâche plus élaborée que d'autres en matière d'enseignement, en matière de prédication, en matière de formation. Les dons ne sont pas égaux à tout le monde. On va se rendre compte qu'il y a différents qualificatifs qui viennent dans la description des critères d'anciens. Alors, alors, quand il dit « surtout ceux qui ont une position, un rôle, une responsabilité d'enseignement et de prédication » parce que la responsabilité est encore plus grande. La Bible dit dans Jacques qu'il n'y en ait pas un grand nombre qui enseigne parce qu'on va être encore plus redevable que tout le monde. Donc, tous les anciens sont appelés à enseigner, mais certains, semble-t-il, ont un ministère plus développé que d'autres, et c'est tout à fait normal. Alors, ce texte-là a été écrit à peu près 30 ans après le début de l'Église, et déjà, on voit que dans l'Église, il y avait un ordre, il y avait des fonctions, il y avait des fonctions qui étaient partagées, il y avait des fonctions qui étaient réparties entre différentes personnes. Certains avaient d'autres fonctions plus en avant, peut-être d'autres moins en avant, mais ils étaient là ensemble pour faire un corps. Maintenant, les qualifications. Et là, on rentre dans quelque chose qui est un peu plus compliqué pour nous autres. Et là, tout le monde, je vais vous demander d'écouter avec une oreille partagée, dans le sens que toutes les qualifications qui vont sortir de là. Tous les hommes de l'Église sont appelés à les rejoindre. Toutes les femmes de l'Église sont appelées à les rejoindre, pas pour devenir anciens. Parce que ce sont des qualifications d'hommes et de femmes de Dieu, premièrement. Ce sont des qualifications que chaque homme doit viser. Donc, vous allez, peut-être certains sont en train de dire, moi, ancien, là, non, diacre. Non. Donc, les critères, passez au suivant. Non. Tous les hommes doivent viser les critères d'anciens et de diacres. Parce qu'on est appelé à être des hommes et des femmes de Dieu. Donc, à mesure qu'on va les défiler, n'allez pas vous imaginer que ce n'est pas pour vous. N'allez pas vous imaginer que ça ne vous touche pas. D'abord, selon sa foi. La Bible dit dans Tite 1, « Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. » Donc, on s'attend à ce que ce soit quelqu'un qui est stable dans sa foi. Pas quelqu'un qui est toujours en train de douter. Pas quelqu'un qui est toujours en train de suivre n'importe quel vent. Pas toujours quelqu'un qui est en train de nous arriver avec une patente qu'il a entendue sur Internet puis qui l'a bouleversée. Mais quelqu'un qui est stable dans sa foi. Quelqu'un qui est assis dans ses doctrines. Attention, ici, on ne parle pas de quelqu'un qui est entêté. On parle de quelqu'un qui est enraciné dans les Écritures, stable dans sa foi, juste dans ses doctrines, fidèle dans sa marche chrétienne. Donc, quelqu'un qui est ancré dans les Écritures, quelqu'un qui, lorsqu'on lui pose une question, va voir dans les Écritures avant de dire quelque opinion que ce soit. Quelqu'un qui va aller chercher, on va lui demander un conseil et il va avoir la réflexion de dire, ben, qu'est-ce que la Bible dit? Dernièrement, ma femme et moi, en passant, je ne la connaissais pas, j'ai ma femme avec moi ce matin, ma petite fille. Alors, j'ai emmené ma meilleure mouette. La meilleure moitié est là. Elle est là. Où je t'ai rendu? Oui, c'est ça. On avait quelqu'un dans le salon chez nous qui vous demandait des conseils, un couple, et puis ils ont vécu certains bouleversements. Et il nous demandait conseil à moi, Irène, concernant certaines dynamiques de couple. Et puis, j'ai dit, selon la situation que vous vivez, j'aimerais vous dire qu'est-ce que la Bible dit. Je savais que je graffinais dans le dos, là. Je savais très bien que je graffinais dans le dos. Mais j'ai dit, si vous voulez, on va regarder ce que la Bible dit. Puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. En premier, ça ne leur a pas plu, mais après, ils ont réalisé, ouais, c'est vrai. C'est vrai. La Bible dit telle chose. Peut-être qu'on devrait le considérer comme faux. Alors, quand on parle de quelqu'un qui est attaché à la vraie doctrine, c'est quelqu'un qui, premièrement, dans ses conseils, va aller chercher la vraie doctrine. Et c'est souvent une plaie dans l'Église. Des gens vont chercher des conseils à toutes sortes de monde. Mais des fois, quand on réentend les conseils qui ont été donnés, on se demande, êtes-vous allé voir un chrétien ou un non-chrétien pour avoir un conseil de même? Parce que ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Alors, quelqu'un juste selon sa foi, selon sa maturité, la Bible dit « pas un nouveau converti ». On n'a pas trop de misère avec « pas un nouveau converti » pour la simple raison que trop vite, c'est le piège et l'orgueil. Et l'orgueil va nous faire sentir qu'on est important, qu'on ronne. Et ce n'est pas ce que la Bible veut, parce que ce que la Bible veut, c'est premièrement des leaders serviteurs. Et c'est ce que l'orgueil va faire disparaître. Et c'est la question de maturité. Et ici, la question de maturité, je suis obligé de dire qu'elle n'est pas nécessairement relative au nombre des années dans le Seigneur. Il y en a, ça fait 40 ans, on dirait que c'était hier. Pas grand-chose à coller. Donc, la maturité, on définit la maturité comme étant cette capacité intellectuelle, émotionnelle, d'utiliser les principes bibliques et de les vivre. Donc, alors, selon sa maturité, quelqu'un qui n'est pas un nouveau converti. Selon ses compétences, un homme qui est apte à l'enseignement, capable d'enseigner, de bien communiquer l'Évangile, bien communiquer les vérités de la Bible. C'est inconcevable qu'un ancien n'enseigne pas. C'est inconcevable. Un jour, je suis allé dans une église pour enseigner ça, et puis le trésorier, j'ai rien contre le trésorier, là, je ne sais pas à qui je parle, mais il avait nommé ancien. Ben là, c'est parce qu'il ne prêche pas. Il n'enseigne pas, il ne fait pas de disciple. Mais pour l'avoir au conseil, on l'a nommé ancien. Attention, un ancien enseigne la parole de Dieu. Un ancien enseigne les éléments de base du disciple. Un ancien forme des disciples. Maintenant, l'enseignement a des formes différentes. Ça peut être du 1 à 1, et il y a des gens là, il y a des gens dans le 1 à 1, dans la formation de disciples, dans le day-to-day. Ils sont extra. Mais on les fait prêcher de temps en temps parce que devant un grand groupe, ce n'est pas les meilleurs, mais ils sont capables de s'asseoir avec un jeune chrétien et de lui enseigner les éléments fondamentaux de la parole de Dieu et de former des hommes de Dieu. Et ils sont aussi formés dans les Écritures. On s'attend à ce qu'un ancien qui enseigne ait d'abord été enseigné lui-même dans les Écritures, qui a une formation pour enseigner. Alors, on ne veut pas que n'importe quoi soit enseigné. Alors, quelqu'un qui enseigne, qui est capable de bien communiquer les Écritures, qui est capable de former d'autres personnes et de les inculquer à d'autres. La Bible dit dans Tite 1,7, « un bon économe de Dieu ». Alors, on dit qu'on réfère à la façon dont il dirige sa maison. Et ça, c'est symptomatique. L'ancien a des décisions à prendre pour donner la direction au peuple de Dieu. Il ne fait pas que prêcher. Il ne fait pas que conseiller. Il est aussi décisionnel. Donc, on s'attend à ce qu'il soit capable d'être décisionnel. Et souvent, pour examiner la capacité décisionnelle d'un homme, on va regarder ce qui se passe à la maison. Ça marche comment chez eux? Qui est le boss chez eux? Et on se rend compte des fois que ce n'est pas le monsieur qui est le patron chez eux. Ce n'est pas le monsieur. Donc, s'il n'est pas capable d'être un